If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions. C'est non sans une certaine émotion qu'on vous retrouve aujourd'hui pour ce tout premier numéro du Déclic.
Faudrait peut-être préciser ce que c'est, le Déclic. Enfin, je veux dire, comme c'est le proms.
Ah, pas faux. Alors, le Déclic, c'est une émission qui s'attachera à décortiquer le moment où quelqu'un ou quelque chose a fait basculer la vie de notre invité de la semaine. Sa vie pro, sa vie perso, ou peut-être même les deux. Pour ce premier numéro, il nous est apparu comme une évidence de faire venir Lola Dubini. Si l'émission doit avoir une marraine, alors on est ravis que ce soit elle. Musique, théâtre, télé, scène, et même bientôt cinéma, Lola, elle sait tout faire et ça force l'admiration. Pour avoir eu la chance de travailler avec elle, j'ai moi-même pu prendre une vraie leçon à ses côtés, vu qu'elle évolue dans ce milieu et dans la vie avec un naturel désarmant, un sourire communicatif et une humilité à toute épreuve. Alors avec Juliette, on a eu envie de la faire parler à notre micro d'un de ses déclics à elle, d'un des changements qui a fait basculer sa carrière. C'était pas facile d'en choisir un, tant son parcours est riche et varié, mais on a opté pour le moment où elle a choisi d'arrêter ses études pour suivre une voie artistique. Salut Lola!
Salut Sophie!
Comment tu vas?
Super bien, je suis trop contente d'être là.
Bon, on est trop contente de te recevoir.
Bah écoutez, je suis très bien accueillie, ça sent le vin de partout, j'adore.
Et le bruit à la truffe!
Et le bruit à la truffe!
S'il te plaît, on se mouche pas du coude!
Pas du tout.
Un déclic, ça se fait toujours dans un contexte particulier, alors je te propose de revenir sur tout ce qui s'est passé en amont. Par exemple, t'as grandi où et dans quel contexte? Comment tu qualifierais ton enfance, en fait?
Alors moi, je suis née à Lyon. J'ai grandi avec ma famille dans la banlieue de Villeurbanne, qui est juste à côté de Lyon, vraiment très accolée. Donc j'ai grandi dans ce qu'on appellerait une cité, vraiment, avec toutes les cultures. J'ai grandi avec à côté de gens qui étaient plutôt de confession juive. Beaucoup de confessions musulmanes aussi, donc ce qui m'a permis d'être très ouverte sur toutes les cultures et toutes les religions très petites, et aussi d'avoir une famille nombreuse, puisque j'ai trois sœurs, et du coup on s'est toujours très très bien entendu, je suis très très proche d'elles, ce qui fait que vu qu'on habitait en cité dans un immeuble, en fait tout l'immeuble c'était notre famille, je suis encore en contact avec beaucoup de gens qui étaient dans cet immeuble-là, et ouais, j'ai un sens de la famille assez développé dû à cette enfance-là qui a été très avec ma famille, mes oncles, mes tantes, etc., qui habitaient pas très loin de chez nous, pas très loin de Lyon, à Roanne, et puis avec ces gens au quotidien à Villeurbanne qui étaient avec nous, donc j'ai grandi là-bas.
Et ta famille, elle est un peu dans le milieu ou il y a personne qui est implanté dans la chanson, YouTube, tout ça?
En fait, moi, ma famille, ils sont plutôt dans des carrières plus standards, j'allais dire plus, on va dire, communes. J'ai une sœur qui est dans les DRH, une autre qui est dans le marketing, une autre qui est dans le commercial plutôt ingé, voilà. Et mon père qui bosse dans les achats, ma mère qui bosse dans le médical. Donc non, j'ai personne de ma famille qui voulait choisir de voie artistique. J'avais ma grande sœur, je crois, qui voulait faire du dessin. Mais sinon, en tant que telle, pas vraiment. Il y a mon grand-père qui faisait de la guitare. Et par contre, nos parents nous ont toujours laissé la porte ouverte à toutes les passions qu'on aurait pu avoir. Donc mes parents, très tôt, nous ont fait faire des ateliers d'une semaine pendant les vacances. Ils ont tenté le sport. Vraiment, ça n'a absolument pas fonctionné. Mais en tout cas, ce qui est cool, ce que je retiens de l'éducation de mes parents et la chance que j'ai, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais en fait, c'est qu'ils nous ont laissé tester ce qu'on voulait. Et ça, franchement, quand t'es un enfant, c'est trop bien. Parce que du coup, on a eu l'occasion, on n'était pas une famille très riche, parce que on pourrait croire qu'en essayant plein de trucs, t'es très riche et tout, alors que pas du tout. C'est juste qu'à Lyon, à l'époque, il y avait vraiment un truc sur la jeunesse qui était de... en fait, on vous donne la chance de pouvoir avoir des cours pas très chers. Et du coup, mes parents, ils ont fait faire du dessin, mes sœurs. Moi, j'ai pu faire une semaine de cheval, ce qui, franchement, est pas donné à tout le monde.
Tu m'étonnes.
J'ai pu faire plein de trucs. Et en fait, la musique, j'ai toujours chanté. Depuis très petite, ouais. Depuis très petite, en fait. Je me rends compte, c'est vrai que c'est un truc qu'on me demande à chaque fois. À quel âge j'ai commencé à chanter, je me souviens pas, parce que J'avais l'impression que c'était un truc comme la continuité de la parole. C'était, ça me paraissait logique, quoi.
Ok.
Ouais, c'est un truc chelou, mais même vraiment, on me l'a demandé plein de fois. Le seul déclic que je pense avoir eu, et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui, mais le déclic, ça a peut-être été les girls band et les boys band. De me dire, ah, c'est cool, on peut être à plusieurs et chanter, et c'est trop bien, tu vois. Les L5. Ma vie.
Nos héroïnes à toutes.
Exactement. En fait, on a toutes fait des instruments classiques. Okay. Mes parents nous avaient toutes un peu baladées dans l'école de musique et nous avaient dit, bah, choisissez l'instrument que vous voulez faire.
Trop bien.
Ouais, non, mais je te jure, mes parents, j'aimerais trop éduquer mes enfants comme mes parents ont pu m'éduquer. Alors, peut-être que je suis extrêmement mal élevée, auquel cas, je m'en rends pas compte. Mais en termes de d'ouverture d'esprit, mes parents étaient vraiment cool pour ça. C'est que, tu vois, moi, quand je suis arrivée dans l'école de musique, j'ai vu tous les cours. J'hésitais entre la batterie et le basson. Alors, le basson, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas inné de connaître le basson, c'est un instrument classique. Si vous avez écouté quand vous étiez petit, Pierre et le Loup, dans les versions un peu classiques du terme, dans les contes, généralement le basson c'est le méchant. Parce que c'est un petit peu sournois comme son, et c'est un son vraiment. C'est un grand tube qui était plus grand que moi à l'époque, parce que j'avais 6 ans quand j'ai choisi le basson. Et du coup, ma sœur, j'ai une de mes sœurs, Marine faisait du hautbois, Chloé de la flûte traversière et Flo de la clarinette. Et moi j'ai pris le basson. Et mes parents sont pas plus culture classique que ça. Mon père fait du piano, du synthé depuis qu'il est jeune. Donc on a quand même eu tout vite la fibre musicale et mes parents écoutaient beaucoup de musique. Donc tu vois, je sais pas comment ça, pour le coup, je sais pas du tout comment ça s'est fait que moi j'ai eu envie de faire ça. Enfin, si je sais, maintenant j'ai réussi à identifier des moments un peu clés. Mais genre, en tout cas, genre Céline Dion, moi.
C'est vrai.
Ouais, la découverte de Céline Dion a été.
Quel album?
D'elle. En fait, j'ai découvert deux qui étaient faits par Goldman. Et mes parents, on l'écoutait dans la voiture. Goldman, ça a été globalement une grosse ref. Parce qu'on allait souvent chez ma grand-mère mes grand-mères qui habitaient à Rouen. Et du coup, sur le chemin, on écoutait tous les albums. On écoutait Bobby Lapointe et tout. Enfin, vraiment, on était très variétoche de ouf. Et Phil Collins, donc qui est la variété anglaise par excellence. Et du coup, je pense que c'est ça. Mes parents, ils avaient une appétence particulière pour la musique en général. Mais en tout cas, ils nous ont jamais forcé à rien faire, donc la musique, c'est venu hyper naturellement, en fait.
Et c'est comme ça que tu te retrouves à 15 ans, mm-hmm. à faire « La France a un incroyable talent ».
Oui, alors ouais, ça c'est assez ouf.
Tu peux nous raconter comment ça s'est passé ?
Bien sûr. En fait, dans mon enfance, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais j'ai beaucoup déménagé. Donc je suis née à Lyon, après je suis partie à Angers. Après, de Angers, je suis partie à Issoire, à côté de Clermont-Ferrand. Et tout ça, c'était à peu près tous les 5 ans. Donc en gros, j'ai fait mes 10 ans, 15 ans, enfin tu vois. Après, je suis partie à Bordeaux pour mes études. Et après, je suis venue à Paris. Et en gros, attends, la question de base, c'était quoi, pardon ? J'ai complètement zappé.
C'était la France en incroyable.
La France en incroyable, ouais. Et en fait, on a gardé contact avec des gens de Lyon, qui sont des gens qui sont comme mes cousins. Et il y a un jeune homme qui est le meilleur ami de ma sœur, d'une de mes sœurs, qui s'appelle André. J'étais à Angers à ce moment-là. Et on est retourné et ma sœur habitait elle à non pardon j'étais à Issoire et ma sœur habitait elle à Lyon pour ses études et du coup je suis allée lui rendre visite un peu par hasard pour elle est du 24 octobre je suis du 22 donc je suis venue lui faire la surprise d'être à Lyon j'étais jeune quoi je sais pas je devais avoir 13 ans et mes parents m'ont foutu dans le train ils m'ont dit allez vas-y ça va être sympa et tout du coup en arrivant je rediscute avec André ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et tout puis il me dit mais t'aimerais pas faire une émission quand même tu chantes super bien moi ta voix je l'ai entendue nulle part franchement ça serait cool et tout je fais pff, ça arrive qu'aux autres j'habite à Issoire 17 000 habitants impossible et tout puis il me fait ouais bah je sais pas je trouve pas ça si impossible et à l'époque j'avais posté le 14 avril 2008 ou 9 je sais plus j'avais posté une vidéo de Talking About Revolution la première chanson que j'ai apprise à la guitare sur YouTube et en fait il a pris cette vidéo là et quand je suis partie de Lyon visiblement il aurait rempli dans mon dos un fichier d'inscription pour Incroyable Talent, qui était encore Incroyable Talent à l'époque, et pour Nouvelle Star.
D'accord.
Donc voilà, et entre-temps, moi je m'étais inscrite sur Internet sans le dire à mes parents à un concours qui s'appelait Zik Me Up. Tu sais, c'était une petite daube où tu devais voter, tu devais demander aux gens de voter par +1 ou sinon ils envoyaient des SMS et tu remontais dans le classement. Et en fait, mes parents, ils y croyaient sans y croire. Et en fait, j'ai été sélectionnée à ce truc, quoi. J'ai été sélectionnée et je me suis retrouvée à jouer dans un casino. Avec d'autres gens et je suis arrivée jusqu'en demi-finale de ce truc alors qu'à la base il y avait zéro chance Enfin, tu vois, mon pseudo, c'était LolaDub63, comme sur mon Skyblog, tu vois, comme sur mon MySpace à l'époque, tu vois. Et en fait, c'est arrivé vraiment un jour où j'étais dans ma cour, en seconde. Je reçois un appel masqué et c'était une pause déj, tu vois. Donc bon, je réponds. Là, c'est « Salut, je m'appelle Marie, je suis casteuse, j'ai incroyable talent, on a reçu ta candidature. » Et je fais « J'ai raccroché. Vraiment, vraiment. Genre, il y a zéro débat. Je me suis dit « Ce n'est pas possible, j'habite à Issoire. La maison de retraite où ma mère, elle bosse, elle est juste en haut. Comment tu veux que ça arrive à Issoire, tu vois ?» Et en fait, elle m'a rappelé. Elle me dit « Bah attends, je te mets en attente. » Elle me met en attente. « Bienvenue chez M6. » Et là, je fais
« Wow. »
Non. Et vraiment, elle m'appelait, elle a dit « On a reçu ta candidature. » Je fais « Mais attends, je l'ai envoyé quand ?» Bah, parce que moi, je me suis dit « Je l'ai pas fait. » Et elle me dit « C'était le 24 octobre de cette année. » Et on était en mai, tu vois. Et du coup, je me souviens avoir raccroché, appelé ma mère. Et j'ai dit « C'est toi ?» Elle me dit « De quoi ?» Je fais « Non, mais j'ai un incroyable talent qui vient de m'appeler. » Elle me dit « Quoi ?» Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Du coup, ma mère, elle appelle ma mes-sœurs, tout le monde. Et Flo, elle dit non, mais attends, André, il l'a fait, mais c'était en mode blague, genre jamais ça allait marcher, quoi. Et en fait,
ça a marché, quoi.
Et en fait, je fais partie de ce. Enfin, moi, ce que j'ai appris plus tard, c'est que en gros, sur Incroyable Talent, ce qu'on sait pas quand t'es un peu, quand t'es le public, j'allais dire un peu lambda, c'est qu'en fait, eux, ils ont un fichier de gens qui ont repéré dans l'année via des concours, via plein de choses, tu vois. Et après, t'as des gens qui font des candidatures spontanées.
D'accord.
Et en fait, sur les candidatures spontanées qui arrivent jusqu'à l'émission, t'en as peu. Parce que des fois, tu sais, c'est un truc de qualité. Enfin, vraiment, en fait, t'en as peu. Et moi, j'étais de mon année la seule sélectionnée en casting sauvage. Je l'ai su bien plus tard. Mais j'ai eu une choune incroyable.
Mais t'avais le talent, Lola.
Écoute, faut croire. Mais... Et ce qui est fou, c'est que ce Zik Me Up, je l'ai fait. Je suis arrivée en demi-finale. Donc, j'ai eu pas mal de gens, tu vois, qui m'ont soutenue et même des artistes confirmés qui étaient là depuis 10 piges, qui me disaient « Mais meuf, ta voix, je l'ai jamais entendue d'une part. » Et moi, j'étais « Ah ouais ?» J'étais choquée, tu vois. Ils allaient voir mes parents en disant « Ouais, faites attention à elle. Genre, faut la préserver de ce milieu de requins et tout. » Mes parents, ils étaient genre « Oui, bon, de toute façon, d'ici à ce qu'elle en fasse quelque chose, tu vois. » Nous, eux, ils y croient, tu vois, mais c'est des parents. De toute façon, ils m'aiment. Donc oui, ils y croient, mais sans se dire que ça sera mon métier, quoi. Et en fait, ce Zik Me Up, la même année, grâce à Zik Me Up, il y a Nouvelle Star qui m'a appelée en même temps. Si tu veux, j'ai eu Incroyable Talent de Nouvelle Star. Et mes parents, ils m'ont dit, franchement, Nouvelle Star, t'as 15 ans. Nous, on a un petit peu peur parce que Nouvelle Star, c'est toutes les semaines, hyper impliquant. Et puis, c'est beaucoup de chanteurs. En fait, c'est que des chanteurs qui se battent entre eux. Ils ont dit, alors qu'Incroyable Talent, si tu perds face à une contorsionniste, on s'en tape un peu, quoi. Tu vois, ça remet pas toute ta vie en question. Et super réflexion de mes parents, franchement. Vraiment, et je regrette pas du tout d'avoir fait Incroyable Talent parce que du coup, t'étais jugée en tant que sur un talent général face à d'autres talents que toi t'as pas et tu pouvais pas dire oh j'aurais dû faire.
Tu te compares moins.
Tu te compares plus du tout. Et à 15 ans j'ai trouvé ça très sain comme réflexion de la part de mes parents en mode comme ça on est détente et tu fais le truc juste pour t'amuser quoi. Et c'est parti comme ça.
Et l'aventure elle s'est passée comment? C'était pas enfin parce que t'as 15 ans tu passes à la télé régulièrement les gens commencent à te reconnaître dans la rue.
Ça c'était bizarre ouais, franchement. En fait, c'est un truc que sur le moment, je m'en rendais pas du tout compte. Pour moi, c'était mon quotidien. Ça a été mon quotidien pendant des mois. En fait, on se rend pas compte, mais à partir de mai, ils t'appellent tous les jours. De mai à la diffusion, le direct, moi, où j'ai été sélectionnée en demi-finale, de mai à décembre, ils t'appellent tous les jours. Même quasiment les dimanches, quoi. Du coup, toi, t'es dans une matrice où t'es genre, oh, en fait, ma vie, c'est ça, quoi. Ma vie, c'est ça et tout.
Mais ils t'appellent pourquoi à ce moment-là?
Parce qu'ils veulent. En fait, ils sont un peu obligés de garder un œil sur toi pour savoir si psychologiquement c'est cool.
D'accord.
Si tu vis le truc bien. En fait, on se rend pas compte, il y a vachement de suivi. Il y en a pas mal qui disent ouais, j'ai été lâchée du jour au lendemain et tout, alors qu'en fait, pas du tout. T'es lâchée du jour au lendemain quand t'as perdu. Et en fait, ce qui a de dur, c'est que d'un coup, t'as plus d'appels.
Ouais.
Donc ça, c'est compliqué à gérer. Mais en soi, moi, sur le moment, ils ont été super, tu vois, je pourrais jamais dire que les équipes ont été horribles. Ils ont toujours été sympas parce que j'ai 15 ans, tu vois, à l'époque.
Ouais.
Donc vraiment, ils ont été cool. Et en fait, ce dont je me souviens juste, c'est que puisque t'as ce truc un peu omniprésent dans ta vie, moi j'allais en cours, et des fois en cours, on m'appelait en masqué, et du coup, je sortais de cours, quoi. J'étais omnubilée par...
Maria Carré, quoi.
Dans ma tête, non, mais dans ma tête, tu vois, il fallait que je réponde, ouais, sinon c'était mort. Ouais. Genre, je participais plus à l'émission, quoi. Et du coup, j'ai passé une première passe de casting en mai. Et ce qu'il y a de super marrant, et moi, je crois vachement au fait que ma carrière, entre guillemets, parce que c'est toujours terrible de dire le mot carrière quand il s'agit de toi, tu vois, mais en gros, mon métier maintenant, j'ai l'impression que ça a été une suite de... C'est pas de la chance, j'arrive toujours pas à trouver le truc, mais une suite d'opportunités qui se sont déroulées. Et quand même, il y a une part de chance. Je sais pas si... Moi, je crois au destin, je crois qu'il y a un truc de tes choix influencent ce qui va se passer après. Mais il y a quand même une suite... Genre, en fait, quand j'ai déménagé de Villeurbanne, enfin de Lyon, et que je suis partie à Angers, mes parents, ils ont fait une grosse chouille avec tous leurs potes. Ils nous ont dit « Invitez vos potes » et tout. Et mes parents ont loué une boîte de nuit à Lyon qui s'appelait le Clean ou C'est Clean, un truc comme ça, mais à l'ancienne, tu vois. C'était vraiment une boîte
ça
années 90.
Un lavomatique.
On est tous d'accord avec ça. Je sais même plus comment elle s'appelait en vrai, mais c'était dans une, c'était sur les quais de Lyon, dans une impasse, mais un truc improbable et impossible à trouver, vraiment. Donc on fait cette soirée, moi hyper triste d'être déracinée, j'arrive à Angers, machin. Incroyable talent, plus tard m'appelle, me dit, tu passes les castings à Lyon, ok? Trop bien, j'arrive, moi j'habitais à Issoire, Lyon, c'était 1h30, 2h. On prend la voiture avec toute ma famille, parce que toute ma famille était là ce week-end-là, et ils sont graves pour me soutenir, ils sont vraiment trop choux. Donc ils m'accompagnent tous. Et putain, plus on arrive, et plus mon père il me dit, ça me dit un truc quand même là, ce chemin. Et on arrive, on se gare, on arrive à l'endroit, et là, on retrouve l'impasse de la discothèque qu'ils avaient louée. Oh, et on voit que le théâtre, la porte à côté de la boîte de quand je suis partie de Lyon. Et tu vois, je suis pas dans les trucs des signes et tout, mais là, obviously, quoi. Un truc énorme qui se passe dans ma vie. Lyon est énorme. Et le seul endroit, le théâtre qu'ils ont trouvé dans Lyon, c'est le théâtre qui était à côté de la boîte où je me sentais déracinée à la base. Et je me suis dit, ça, c'est un signe. Et ma mère, elle m'a dit, ça, signe, de ouf. Je passe le casting. Le casting, il te demande... t'as juste une petite caméra, un mec et une nana. Et moi, mes parents, ils s'étaient mis au bout du théâtre pour pas me faire trop peur, tu vois. Ils me demandent de faire une chanson au ukulélé. Je fais Jason Mraz, I'm Yours. Ils me demandent de faire une chanson à la guitare. Je fais Talking About Revolution. Et casting terminé. Je remballe ma guitare. Et là, ils font... Rapidement, t'as pas une chanson a cappella? Moi, je fais, bah non. Enfin, prise de cours, 15 ans. Je fais, non, bah en fait, j'ai 14 ans. À l'époque, j'avais 14 ans. Je fais, bah en fait, non, enfin, parce que vous m'avez pas demandé de préparer. J'ai rien préparé, tu vois. Arrêtez. Et à cette époque-là, j'avais appris à l'école, au collège, Alléluia. Et je fais, bah vas-y.
Ça va, c'est classe, parce que vraiment, moi, ce que j'ai appris à l'école, c'était un carnage, quoi.
Ouais, bah moi, j'ai de la choune, hein. Mais choune 6000, hein, vraiment. Choune 6000. Où c'était Maria Carey, Hero. Donc, si tu veux, je me suis dit, Alléluia, très bien. Donc, je commence à faire I heard it was a secret chord that they played and played the Lord. Et là, j'oublie les paroles, je fais But you know, we five, fufi, fafu. Et après, je continue, It goes like this, the fourth, fifth, the minor, fourth, the mid. Et là, je vois la tête des casteurs qui fait Bon, vous le voyez pas, c'est un podcast, mais mais en gros, je vois les yeux qui s'éparpillent et qui s'écarquillent, pardon. Et ma mère, et pas qui s'éparpillent, c'est super drôle.
C'est vraiment fin de soirée.
Et je vois ma mère et mon père dans un état de stress en se disant, elle a rien préparé. Et la gosse chante comme ça. Et casting terminé. Et là, t'attends qui te rappelle. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, j'ai dû le niquer mon truc. Enfin, ça va vraiment pas le faire, tu vois, vraiment. Et en fait, ils m'ont appelé quelques semaines plus tard en me disant bah.
Quelques semaines quand même.
Ouais. Ça trois semaines et ils t'appellent
t'as
tous
le temps
les jours.
T'as le temps d'avoir
hein.
La rate au courbouillon.
Ah là, car les yeux éparpillés du coup. et arrive ce moment où t'attends l'appel et ils demandent à mes parents de filmer ma réaction. Donc t'as mon père avec le caméscope.
Ça aurait été tellement cruel que ce soit pour te dire t'es pas retenu.
Bah ouais. Mais moi, je me suis dit, il leur faut aussi des réactions de déception, tu vois.
Ah ok.
Donc non mais je m'étais tout fait dans ma tête. Hein, faire ça un enfant. Et du coup, ils m'appellent. Et je me souviens, j'ai attendu toute la journée. Ils m'ont dit, on t'appellera aujourd'hui. Donc, de 9h. Moi, j'étais réveillée à 9h. Hein, vraiment. Première fois, j'étais genre, ok, c'est samedi, on s'en fout. Je suis réveillée hyper tôt et tout. Puis j'attends. Et d'un coup, j'étais en train de jouer à GTA Vice City. Les vrais savent. Et je vois mon téléphone sonner. Et là, j'arrête tout. Je fais, mais non, papa ! Mon père, boum, il démarre le truc. Et je mets en haut-parleur. Et là, je vois, putain, il commence à me faire, ouais, Lola. On est désolé, mais tu sais qu'on n'a pas pu retenir tout le monde et t'as vraiment été un coup de cœur pour nous. Mais on est vraiment désolé, quoi. Et là, je fais non, franchement, je comprends. Tu sais, c'était quand même déjà super. J'étais trop déçue dans ma tête. J'étais non, mais attends, quoi. Et là, ils me font, mais on va être obligé de te déranger pendant tes vacances. Et là, je fais us. Et ça, c'était donc fin mai, juin. Et, Et du coup, ils m'ont annoncé que je venais tourner pendant 3 jours la vraie émission. Et ça s'est passé en août. Fin août, j'ai enregistré. Fin août, je savais que j'ai été sélectionnée. Sauf qu'ils en sélectionnent plus qui vont en demi-finale que ce qu'ils veulent vraiment prendre. Je crois qu'ils en sélectionnent 30. Et après, ils en prennent que 24. Donc en fait, même quand ils ont eu les 30 à la fin, moi, j'étais dedans, mais j'étais pas sûre d'être finalement sélectionnée. Ce qui aurait été horrible.
Ouais.
Et au final, j'ai été sélectionnée pour la demi-finale. J'ai tout raconté.
Bravo.
J'ai tout raconté. Là, vous savez tout. Je ne peux pas être plus dans le détail.
Je connaissais, enfin, je savais que t'avais été sélectionnée et tout ça, mais tu racontes si bien que j'étais quand même.
Mais tu savais, t'avais peur que je sois pas sélectionnée. Non, après demi-finale, bah, j'ai perdu. Tout le monde m'avait dit non, mais tu perdras pas et tout. Et en fait, la meuf en face de moi,
contre qui?
Bah, une contorsionniste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le prix final, c'était aller chez Bouglione. Bah ouais, bien sûr. Et en fait, à la finale, du coup, bah, moi, j'étais devant ma télé à Issoire. Et Gilbert Rozon, j'étais son coup de cœur de la saison. Gilbert Rozon a dit pendant la finale, on va faire une grande soirée avec les 4 finalistes à Bobino. Et je vais aussi inviter mon coup de cœur Lola.
Allez.
Et là, j'étais devant ma téloche à Issoire. Je lâche les coussins. Et je fais what the fuck. J'étais trop, mais trop contente. Du coup, dès le lendemain, ils m'ont appelé en disant bah voilà, Gilbert a parlé de toi hier. Du coup, il y a les 4 finalistes et toi. Alors que j'étais même pas dans la finale.
Hein. Il leur a pas laissé le choix, en fait.
Et ouais, il leur a pas du tout laissé le choix. Et du coup, j'ai joué à Bobino à 16 ans, le jour de l'anniversaire de ma mère. Et on est le 26 janvier. Et je peux peut-être pas le dire parce que c'était, ça va. Mais en tout cas, ça fait des années jour pour jour. C'était ce jour-là que j'ai joué à Bobino.
10 ans, quoi.
10 piges.
Oh, bah, faut fêter ça. Et sortez
du pouilly fumé. Donc voilà. Mais tu sais vraiment tout, là.
Donc, tu t'es retrouvée demi-finaliste d'un concours diffusé à la télé.
Ouais.
Tu savais, donc, d'une certaine façon, que tu avais un public qui te suivait, que... Enfin, là, tu avais la certitude que ton talent était là, que tu...
Ouais, bah, en fait, ce que ça a changé dans ma manière d'être, en tout cas... Allez-y, servez-vous des verres.
J'aime beaucoup le bruit.
Je fais plaisir, t'inquiète, à la tienne. Mais tu veux pas, t'es sûre?
Non, t'inquiète, moi, j'ai mon petit thé.
Ok.
C'est mon
pouilly fumé. Tu veux pas une petite fichette
dedans? Ah, l'horreur, putain. Non, je veux bien un peu de calva. Ce que ça a changé dans mon quotidien et dans ma relation avec les autres, en vrai, ça m'a un peu bidouillé. Hein.
C'est-à-dire?
Ben, je l'ai pas que bien vécu. En fait, dans ma relation avec les autres, déjà, ça m'a fait grandir super vite d'un côté. Et t'as une partie de mon adolescence que je n'ai pas vécue, vraiment.
Ouais.
Genre avec les mecs et tout.
Ok.
Ça m'a vraiment kéblo. Et ça a vraiment changé ma perception de la vie en général, et surtout ça a changé le fait qu'à 15 ans j'ai vécu des trucs en termes de sentiments décuplés. T'as des gens que tu connais pas qui t'arrêtent et qui te reconnaissent. Quand je suis allée chez ma grand-mère le lendemain de la demi-finale, et on se baladait dans la rue et des gens m'arrêtaient pour prendre des photos. J'avais 16 ans, quoi. C'est pas normal, enfin, c'est pas normal. Et du coup, quand je suis... Je joue en ce moment un spectacle et je suis en train de le redimensionner, le refaire. Et j'ai toute une partie sur ce qui s'est passé pendant cette période au lycée.
Ouais.
Et ça n'a pas été super. On pourrait se dire, oh, putain, c'est cool. Enfin, tu vois, tout le monde trouve ça chambé que je fasse de la télé. Alors, il y a une partie où c'était vrai. Et puis, il y a toute l'autre partie où t'as... C'est pas de la jalousie, c'est un truc un peu mal placé chez les gens. Il y en a qui appelleraient ça l'ego.
Okay.
Et en fait, moi, ça a déclenché des trucs très, très négatifs. Donc, pas mal de harcèlement scolaire au final. Et en vrai, ce que j'en retiens maintenant, c'est juste que bah, quand je revenais, j'avais des mecs qui m'insultaient tout le temps sur mon physique parce que Gilbert Rozon m'avait fait des réflexions sur mon physique. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je sois si jeune quand il m'avait vu au départ. Il a oublié mon âge et il m'a fait des réflexions sur la manière dont j'étais fagotée, sur des trucs comme ça. Et c'est ce que les gens ont retenu.
Mais,
certains.
C'est quand même dingue. J'espère que maintenant c'est un peu plus réglementé parce que même pour des adultes en fait. On
bah en fait c'est rude. Enfin, je pense que si ça avait été diffusé maintenant, ils s'en seraient pris plein la tête. Vraiment.
Tu m'étonnes.
Vraiment. Et je lui en veux pas du tout parce que franchement, moi par contre ça m'a fait me poser des questions sur l'image que je renvoyais aux gens. Et en fait c'est un truc que déjà l'adolescence, quand t'es au lycée, quand t'es au collège, tu penses vachement à ce que les gens pensent de toi. Tu fais tout pour être un peu cool, ou alors tu t'en tapes. Mais moi, je voulais pas tout faire pour être cool, mais en tout cas, je voulais pas créer le débat, tu vois. Enfin, j'avais pas envie qu'on me remarque particulièrement pour quelque chose. Et au final, j'ai fait ça, qui m'a mis en avant. Mais vu que dans mon caractère, c'est pas de la mise en avant, bah, je sais pas comment te dire. Du coup, tout ce qu'il y a eu de négatif, j'étais genre, waouh, attends, mais je veux pas être méchante, moi, à la base, tu vois. Enfin, oubliez, vraiment, ne parlons pas de ça, moi, il n'y a pas de problème, quoi. Et en fait, les gens, ils te le rappellent, même mes profs, ils me disaient, bah, les maths, c'est pas votre incroyable talent, enfin, vraiment, c'est des bouffons.
Les blagues nulles.
Mais les blagues nulles, et c'est des bouffons, et du coup, bah, j'ai, ouais, j'en ai pas mal souffert, quand j'en ai pas mal, j'ai eu beaucoup de séquelles de ces passages-là, et encore maintenant, tu vois, je les règle que maintenant, j'ai 26 ans.
Mais comment t'as fait, du coup, pour t'en sortir à l'époque ?
Bah, j'ai vu un psychothérapeute, en vrai. Hein. Et j'ai pas du tout de honte de le dire, parce que moi, mes parents, ils trouvaient pas de solution pour que je... En fait, j'étais malheureuse.
Ouais.
Et bizarrement, hein, alors qu'il se passait que des trucs chambés.
Quasiment du jour au lendemain, quoi.
Ouais, 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 ça a été vraiment rapide. Et je me posais des questions que je m'étais jamais posées avant. Et en fait, je crois qu'il y a un moment, quand t'arrives plus à trouver d'aide autre part, moi, mes parents m'ont dit, bah, franchement, c'est pas comment t'aider. Peut-être qu'il faut que t'en parles à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que j'ai caché longtemps parce que j'avais un peu honte. Et en fait, le mec que je suis allée voir était trop cool.
Ouais.
Et vraiment, je crois que quand tu trouves quelqu'un d'aussi cool, et ben, faut le garder, quoi. Et moi, je l'ai vu pendant un an et ça m'a vraiment... tu vois, mes parents, ils m'ont retrouvée. Ils m'avaient vraiment perdue. Mais pas perdue en mode d'un coup, je faisais des caprices ou quoi. C'était pas du tout ça. C'était... J'étais malheureuse, quoi.
T'étais éteinte, quoi.
Éteinte, grave. J'avais l'impression qu'on m'avait pris ce que j'étais. Et ouais. Que du coup, j'avais plus.
Bah, ce que t'étais, c'était devenu public et ouais. Les gens s'en servaient contre toi.
Et puis, plus rien ne m'appartenait. Je vivais que avec ça pendant des mois. Et puis d'un coup, plus rien. Et puis tu perds, donc t'es déçue. Parce que moi, j'ai un truc. Ce que je fais, je le fais pas que pour moi. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que ça rend fier mes parents. Donc du coup, tu sais, j'ai comme un truc de. Faut pas déconner, tu vois, si je perds, ils vont être déçus. Parce que je vais être déçue.
Encore maintenant ?
Ouais. Oh, pas grave, moi mes parents je donnerais toute ma vie pour eux, enfin, vraiment. Et du coup quand je fais un truc où beaucoup moins qu'avant, mais en tout cas tu vois là, incroyable talent, quand j'ai perdu, j'ai pleuré parce que mes parents, et pas moi, pas parce que moi j'étais déçue. Je me suis dit putain, mes parents les pauvres, ils vont être trop déçus.
Alors que tes parents pleuraient certainement pour toi.
Pour moi, voilà, exactement. Et pareil, je pleurais parce que je savais que ma grand-mère elle regardait, qu'elle devait être trop déçue. Et en fait je pleurais plus pour moi, mais vraiment pour les autres, quoi. C'était un truc, ouais, ça a été assez ouf. Et du coup je m'étais paumée, quoi. Vraiment, j'étais plus la même meuf.
En même temps, c'est tellement jeune pour arriver à ce niveau de réussite.
C'est pour ça, tu vois, quand je vois des jeunes qui maintenant veulent faire de la télé-réalité, qui, quand ils voient qu'ils veulent faire absolument The Voice et tout, moi, je suis grave vigilante. Tu vois, quand j'ai des jeunes qui me demandent des conseils, je leur dis, bah, franchement, attendez pour d'avoir un projet solide et attendez de vous croire assez en vous pour vous exposer à des trucs comme ça, parce que t'es jamais prêt. Moi, c'était l'année de Susan Boyle et on m'a comparé à Susan Boyle.
Mais
du
non.
Coup, ouais, grave, j'étais la Susan Boyle française.
Zéro...
Bah parce que j'étais un peu chum à l'époque pour eux, et du coup, ben la meuf chante bien, on s'y attend pas, quoi. Et vraiment, genre, j'avais un article sur le 20 minutes qui était sorti. Lola Dubini sera-t-elle la nouvelle Susan Boyle française ? Elle arrive mal fagotée, tatati tatata.
Mais bordel.
Ouais ouais.
Mais des claques.
Des claques. Mais à la fois, franchement, si je devais le refaire, je referais pareil. Hyper bizarrement.
Mais le problème, c'est les autres, c'est pas toi. Là.
Ouais, ouais.
Du coup, t'as rien fait de mal.
Mais du coup, tu vois, même d'avoir vécu tout ça, j'ai vécu vraiment des moments où j'étais au plus bas. J'ai vraiment, tu vois, maintenant, j'y repense encore en me disant, faut jamais que je retourne là-bas. Au point où ça allait pas bien. Ouais. Et c'était vraiment à cause des autres et de l'importance que j'accordais aux autres.
Mmh.
Et en vrai, hein, c'est aussi de ma faute. Parce que j'accordais beaucoup d'importance à ce que les autres pensaient à ce moment-là. Parce que ce que j'étais et ce que je leur ai montré, je l'ai rendu public et ils avaient le droit de me dire qu'ils trouvaient ça naze.
Ouais.
Et je leur ai accordé le droit et du coup, je leur donnais le droit de tout faire. Et d'avoir une influence incroyable sur moi, mais parce qu'aussi j'étais ado. Et du coup, tu te construis. Et tu vois, par exemple, avec les mecs, je suis passée à côté de tout. Mmh. J'ai tout fait très tard, plus tard en tout cas, parce que j'étais dans le taf, quoi. Pour moi, tu vois, à 15 ans, j'ai créé une association pour pouvoir, moi, faire des concerts, les facturer et réinvestir. Pour faire un EP, enfin, tu vois, j'étais dans d'autres problématiques, quoi. Vraiment, j'étais loin. Et quand j'ai eu mon bac, mes parents m'ont dit, bah si tu veux, nous on te laisse un an pour faire de la musique. Mes parents, hein. D'habitude ça n'arrive jamais, on est tous d'accord avec ça. Et j'ai dit non, trop de responsabilités, j'ai trop peur de vous décevoir. Encore une fois, je vais faire des études. Et j'ai fait et du coup je suis, tu vois, ça m'a ramené un truc de en fait, je voulais pas partir de chez mes parents parce que j'étais trop attachée à eux. C'était ma stabilité. Ouais, eux, ma stabilité. Et du coup, je voulais faire une formation en alternance pour être fleuriste en restant chez moi. Parce que je voulais plus voir les gens, en fait. Je voulais plus voir les gens du tout. Et du coup, mes parents m'ont forcé. Ils m'ont dit, en fait, c'est pas toi qui vas décider de rester chez nous. Toutes tes sœurs sont parties, t'es la dernière, t'as 17 ans, tu viens d'avoir ton bac, on veut plus de toi chez nous. Voilà.
On veut être tranquille.
Nous, on veut être tranquille et tout. Ma mère, c'est catastrophe de me dire ça, mais en vrai, elle a tellement eu raison. Mon père, pareil. Et quand j'ai fait les trucs post-bac, et du coup, j'ai mis que des villes où il y avait mes sœurs. Donc, j'ai mis Lyon d'abord, après, j'ai mis Bordeaux. Et c'était un BTS communication. Je m'étais dit, de toute façon, tu sais quoi, je sais parler aux gens, je sais parler devant un public, ça me fait pas particulièrement peur, donc je vais faire de la com. Et j'ai été prise dans un BTS communication à Bordeaux. Drame de ma vie. J'étais genre, mais je veux pas y aller, c'est horrible. Je suis partie à Bordeaux, j'ai trouvé un appart à côté de chez ma sœur. J'ai pas dormi dans mon appart parce que je supportais pas d'être toute seule. Et au final, j'ai fait mes études de communication et j'ai continué la musique en même temps. J'ai toujours fait les deux, j'ai fait des concerts à droite à gauche. Et j'ai fait des premières parties, j'ai fait Yann Naïm, San Severino et tout, pendant que je faisais mes études.
C'est dingue, mais en même temps... est-ce que c'est pas lié au fait que t'avais si mal vécu la célébrité qu'en fait t'as quand même voulu garder un truc hyper enfin des études de tradi en fait.
Ouais,
truc,
je pense que t'as raison, il y a un truc comme ça. Puis il y a aussi j'avais pas envie, en fait j'ai découvert avec la musique avec Incroyable Talent que je pouvais faire des concerts un peu de partout en France. Donc ça c'est cool, tu vois, je suis partie, j'ai fait des concerts à la Grande Motte, on m'annonçait comme vue à la télé et tout. Et en fait ça me plaisait pas du tout. Et je voyais qu'il y avait d'autres gens qui étaient connus en régional et qui, eux, se faisaient leur beurre et leur intermittence juste en kiffant leur vie et en faisant des concerts dans la région et dans des campings et machin. Et je me suis dit, mais en fait, être chanteur, c'est ça aussi, tu vois. C'est pas être connu. Être chanteur, c'est juste faire ce que t'aimes et kiffer ta vie. Kiffer, si t'as envie d'aller chanter là, t'as juste à essayer de démarcher des trucs pour essayer d'être payé. C'est te démerder, créer une association pour essayer de réinvestir les sous et tout et tout. Et en fait, ça m'a fait, honnêtement, Incroyable Talent, ça m'a fait comprendre que vivre de sa passion, c'est possible sans exposition.
Okay.
Tu vois, c'est comme, t'as des sculpteurs qui vivent de leur art de manière plus confidentielle, mais c'est pas pour autant qu'ils y arrivent pas. Quand t'es peintre, tu peux être peintre et vivre de manière plus confidentielle et pas être Picasso. T'es pas obligé d'être Picasso pour être peintre, en fait. Et c'est moi, quand j'étais petite, je pensais que pour être comédien, il fallait passer à la télé, il fallait être dans des téléfilms, il fallait jouer, il fallait être exposé.
Alors, directement, tu passes de zéro à un Oscar, c'est ça ?
Dans ma tête, voilà, okay. C'était ça. C'était tu commences dans une école et boum, t'es dans un film. Il n'y avait pas le choix de jouer dans une compagnie qui va juste jouer à Lyon ou juste être dans une pièce qui va jouer à Avignon. Enfin, tu vois, ça m'a fait connaître toutes les autres catégories d'artistes, en fait, dont on ne parle pas du tout. Et qu'on connaît pas parce que quand on est comédien, on est forcément comédien de télé. Mmh. En tout cas, dans mon spectre, à l'époque, quand t'es acteur, t'es juste acteur à la téloche et t'es que Leonardo DiCaprio et t'es pas autre chose. Alors en fait, ça m'a ouvert le champ des possibles et du coup, j'avais plus peur de faire de la musique.
Ça t'a réapaisé
En me disant qu'en fait, si vraiment j'avais envie de faire de la musique, moi, mon envie, elle était pas d'être connue. Mon envie, elle était de faire de la musique et ça m'a replacé là-dedans.
Bah, raté.
Du coup, un peu, mais. Ce qui veut dire que honnêtement, tout ce que j'ai bâti jusqu'à présent là, je l'ai jamais fait parce que j'avais envie que les gens me voient dans la rue. Hein. Mm-hmm. Tu vois, YouTube, quand toi, t'as commencé YouTube avant moi.
Ouais. Effectivement.
Quand t'as commencé YouTube, tu l'as fait pour partager.
Je l'ai fait par hasard. On m'a dit tu veux le faire. Je vais ouais, d'accord.
Pareil, même topo. Je veux dire, je l'ai jamais fait en me disant t'es trop cool. Les gens, ils vont me voir. Ils vont me dire Lola, j'adore tes vidéos. Je vais. Enfin, tu vois, j'ai cette prétention là jamais, tu vois.
Ok.
Parce que moi, vraiment. Je voulais juste chanter. Et.
Et que les gens t'entendent un peu quand même.
Ouais. Que les gens entendent, mais tu vois, il y a mille manières que les gens t'entendent.
Ouais, bien sûr.
Tu peux être juste sur MySpace et avoir un petit groupe. En fait, c'est juste ça m'a replacé. Je me suis dit, en fait, pas besoin d'être connu, quoi. Tu peux juste vivre ta vie tranquille.
Et du coup, j'ai envie de revenir sur tes études, parce que donc t'as fait des études d'une école de communication digitale, c'est ça ?
Ouais, j'ai fait donc 2 ans de BTS à Bordeaux.
Ouais.
Donc c'était. BTS Communication que j'ai validé, messieurs dames.
Oh, dis donc. Madame est surdiplômée.
Bac plus 2. Et après, je voulais aller à Paris parce que j'avais envie de faire de la musique. Donc, je suis allée à Paris. J'ai trouvé une école, en fait, un prétexte. J'avais passé 2 concours. J'ai passé l'ISEG et l'ISCOM.
Ouais.
Donc, c'est 2 écoles de communication, j'allais dire, tradi, classico-classique. J'ai été reçue aux 2. La Chouna, et j'ai choisi l'ISEG parce que si j'avais envie de partir de Paris, j'avais le choix de pouvoir être à Bordeaux, Lyon, t'avais d'autres écoles en fait. Je pouvais me casser un peu quand je voulais et c'était le même programme, le même cursus avec à peu près les mêmes profs. Donc en gros, j'ai pris cette école pour la simplicité. Et moi, j'ai voulu me spécialiser dans le marketing digital parce que tu vois, on te présente des projets et du coup, nous, on faisait des projets qui étaient que digitaux, enfin dans le digital et pas trop presse-papier. Voilà.
À ce moment-là, à part en musique, c'était quoi ton ambition pour plus tard?
Mon ambition, c'était de faire un... J'avais fait un prêt étudiant pour faire mon école. Donc, mon prêt étudiant était de 11 500 euros pour payer les 3 années d'études qui allaient suivre. Et vraiment, mon plan était lancé. J'étais allée à la BNP en disant, voilà, mon école, elle dure 3... Enfin, je dois faire 3 années d'études, donc il me faut tant d'argent. Je l'ai pas, donc donnez-le-moi, parce que sinon, je ne pourrais pas faire d'études. Et je le rembourserai toute ma vie. Il n'y a pas de souci. Mais la France, c'est ça. Et du coup, l'ambition, c'était d'avoir un bac plus 5 et de bosser en boîte de communication. Et mon rêve était d'être conceptrice-rédactrice.
Donc dans la pub, plutôt.
Ouais, plutôt pub. Et en fait, après, j'ai connu la pub. Et je me suis dit, en fait, je crois que je vais faire... J'avais envie de faire de la culture, en général, organisation de concerts, des trucs comme ça. Et à la fois, je m'étais dit, putain, en fait, je crois que j'ai pas envie parce que je serais frustrée de pas être sur scène. Donc, je crois que j'avais un peu laissé la médiation culturelle et j'étais plus dans le... mercantile. Parlons produits. J'ai une de mes sœurs qui bossait dans les jeux vidéo et elle était avant chez Lu aussi, elle avait bossé dans les gâteaux. J'avais fait des stages avec elle et ça m'avait plu. Et je m'étais dit, ouais, bah, tu sais quoi, on fera ça quoi. Et du coup, j'ai fait des études là-dedans. Et en troisième année, ils te disent, bah, c'est super, Lola. Moi, je faisais pas trop d'efforts. Hein. J'étais vraiment en mode peace. Et arrive ce moment où ils disent, bah, il faut que tu fasses un stage de 3 mois. Pour valider ta troisième année. Ok, cool. Donc moi, à l'époque, j'étais très sur Twitter. J'adorais Twitter. J'ai toujours aimé Twitter. J'avais 400 abonnés.
Oh, c'est déjà pas mal.
C'était déjà pas mal. Non, je roulais ma bille. Hein. J'étais pas mal. Hein. Je suis à mort, mademoiselle.
Ok.
J'étais à fond. Je vous répondais sur Twitter. Je lisais toutes tes petites chroniques. J'étais très Sophie Rich à l'époque. Moi, j'étais très team Sophie Rich.
Et d'ailleurs, on s'est rencontrés pour la première fois à cette époque-là.
Exactement. Et en gros, j'ai commencé à être pas mal sur Twitter, donc franchement, je parlais pas mal, tu vois, j'étais fan de Tété, le chanteur, je sais pas si ça vous dit un truc, j'adore. Du coup, je lui parlais vachement sur Twitter, j'étais trop dans sa team, tu vois, j'étais genre, putain, j'aime trop tes albums et tout.
Et il te répondait ?
Il me répondait.
Très bien.
On était vraiment, enfin, il est trop sympa, Tété, pour le coup, vraiment. Mais tu vois, même là, je l'ai recroisé il y a pas longtemps, il m'a dit, c'est quand même ouf. Il y a 10 ans, c'est fou. Et il est vraiment trop sympa, bref. Et en gros, en étant sur Twitter, un jour, il y a un gars qui fait une conférence à mon école et c'était de la e-réputation. Alors la e-réputation, je vais faire un rapide topo parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas, mais c'est gérer la réputation des entreprises sur Internet. Donc par exemple, là, le mec qu'on a rencontré, il gérait EDF, GDF, enfin tu vois, des grosses boîtes. Et ça, en e-réputation, en vrai, c'est hyper compliqué à gérer. Le mec était tout seul. Et moi, j'étais hyper impressionnée par son parcours. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux gérer la réputation des gens sur Internet. Je trouve que c'est trop intéressant de gérer les crises et tout. Du coup, culot. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. J'ai fait, salut, je veux bien un stage. Et il m'a dit, alors, suis-moi sur Twitter. Première personne qui m'a dit ça de ma vie. Suis-moi sur Twitter. Moi, je peux pas te prendre en stage. Mais si demain, t'as besoin d'un stage, je t'aiderai.
Ok.
Ok, cool, tu vois le gars. Il s'appelle Antoine Dubuquois. Salut Antoine.
Salut Antoine. Salut
Antoine. Et ce mec-là, je l'ai trouvé trop intéressant parce qu'il s'est fait tout seul. Il avait sa propre boîte. Il avait des gros groupes et tout. Du coup, moi, j'ai dit, mais putain, je veux faire un stage avec lui, quoi. Du coup, je lance ma petite annonce. Salut, je cherche un stage de 3 mois en service de com. Je préférais com digital, genre social media, machin. Et là, lui, il retweet. Tout son réseau de communicants retweet. Et j'ai 3 messages dans ma boîte Twitter. Heineken. Et une autre boîte.
Dis-moi que t'as choisi Heineken.
J'aurais tellement aimé te dire oui. Et non, je suis allée chez
Oh bah très bien, bon écoute.
Pendant 3 mois, et j'aimais tellement la com à l'époque que j'ai demandé un stage de 4 mois.
Voilà. On fait la faillotte quoi.
Hermione Granger de ouf. Et je me suis juste dit, de toute façon, je suis coincée à Paris. J'ai pas la thune pour rentrer chez mes parents. Donc quitte à faire 4 mois mal payés, autant faire 4 mois mal payés, tu vois, allons-y gaiement. Hein. Donc... Et j'ai choisi de faire ce stage là-bas, social media, et ça ne s'est pas passé comme escompté. Mais en tout cas, choisissez des stages qui vous plaisent vraiment, avec des choses qui vous plaisent vraiment, car l'automobile, par exemple, n'était pas du tout un secteur qui me convenait.
Et toi, t'avais le permis B au moins ?
Bien sûr que oui. Alors oui, bien sûr que oui. Okay. Par contre, ça, c'est sûr que je l'avais, Mais j'étais pas particulièrement intéressée into the automobile.
T'étais pas trop dans le vroom vroom, quoi.
Pas du tout. Et puis j'étais tombée sur un maître de stage qui, à l'époque, n'avait pas saisi la notion d'avoir un stagiaire et une stagiaire. Donc il ne m'emmenait pas beaucoup en réunion. C'était pas très intéressant. Et moi, je m'entendais bien avec tous les services. Ça le dérangeait pas mal. Enfin, tu vois, il y avait des trucs. J'ai jamais trop compris. Mais il m'aimait pas beaucoup, in fine. Et ce qui a fait qu'au final du final, j'ai décidé de mettre fin à ce stage. Et c'est là où ça vous intéresse.
Mais oui, tout à fait, parce que j'ai l'impression que tu m'offres une transition sur un plateau. Parce que, est-ce que c'est là où tu commences à avoir le... où le déclic commence à se créer dans ta tête et que, en fait, tu décides au fur et à mesure d'arrêter tes études? Parce que c'était le stage au début ou...
Bah, en fait, quand je suis arrivée à Paris, il y avait mon meilleur ami qui s'appelle Gwendal Marimoutou. C'est un chanteur que j'ai rencontré sur Incroyable Talent. Et Gwendal est très important dans ma vie. Alors déjà parce que c'est comme mon frère, hein, maintenant, mm-hmm. ça fait 11 ans qu'on se connaît. Mais c'est surtout parce que lui, il est parisien. Et il bosse depuis qu'il a 13 ans. Quand je te dis qu'il bosse dans la musique et dans la chanson, c'est qu'il a fait des émissions sur Canal J, il est comédien, là il a joué dans Sam, il est présentateur sur Julie. Enfin tu vois, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu et tout. Mais il le fait avec respect, avec passion, et c'est pour ça que je l'aime aussi, que c'est mon frère à ce point-là, c'est parce que c'est quelqu'un qui... On partage les mêmes valeurs, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, il était trop content, et du coup, il était tout le temps fourré chez moi. Mais vraiment, il habitait avec moi. On se quittait à 5h du mat, moi j'avais cours à 7h, et on se quittait à 5h du mat en ayant fait des bœufs toute la nuit, en ayant essayé de composer des chansons, en étant allée à l'Orphée, parce que moi je suis une enfant de l'Orphée, c'est un bar à Paris qui est une scène ouverte, avec Mounir qui gère ça, et toute ma vie je remercierai Mounir parce qu'il m'a offert de l'expérience sur un plateau, de jouer devant des gens et de t'en foutre et juste de faire ça pour la passion, quoi. Et du coup pendant un an, pendant mes études, je rentrais très tard les soirs et je me levais très tôt pour aller en cours parce que je faisais de la musique en même temps.
Et c'était quelle année, ça? Première, deuxième, troisième?
J'ai fait qu'une année d'école là-bas.
Ah, okay,
donc c'est vraiment... Attends, ça c'était... J'ai eu mon bac en 2011. Donc 2011, ça devait être en 2013-14, un truc comme ça, peut-être un peu avant. J'ai aucune notion des dates, je suis vraiment naze. Et du coup, Gwendal m'a vraiment mis le pied dans des petites soirées, aller à droite, à gauche et tout. Donc la musique, en fait, elle m'a suivi toute mon année quand même d'études. Et en vrai, quand je suis arrivée au bout du bout, lui, il jouait dans une pièce qui s'appelait Ado. Mmh. Et dans cette pièce Ado, il jouait avec un garçon qui s'appelait Jason et un autre Pascal. Et en fait, Jason, il faisait une école. Enfin, du coup, je les ai rencontrés via Gwendal, l'année où moi, j'étais en études. Et Jason m'a parlé de l'école de laquelle il sortait. Donc, Pascal et Gwendal sortaient de l'ICOM, donc c'est l'école de comédie musicale de Paris. Et Jason sortait de l'école du One. Et je me dis, l'école du One, il y a une école où t'apprends à faire rire les gens. Hyper drôle. Et il me dit, mais franchement, meuf, je te verrais bien là-dedans, quoi. Et je fais, ah ouais, pas du tout. Moi, je fais de la musique, je veux être chanteuse. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que ça a fait son petit bonhomme de chemin. C'est que dès que je chantais, je faisais des blagues entre, tu vois. Enfin, j'aime bien, j'ai toujours bien aimé rigoler et tout. Et après, je me suis dit, dans ma tête, ça a tellement fait de chemin. Je me suis dit, en fait, peut-être que t'as envie de faire de la musique, mais que t'assumes pas encore le fait d'arrêter tes études pour te lancer à 100% dedans. Est-ce que tu ferais pas une école de théâtre en mode t'arrêtes tes cours et tu te formes au théâtre et t'as un diplôme à la fin et c'est cool et ça montre à tes parents que t'as pas fait tout ça pour rien.
Ça rend ça concret, quoi.
C'est concret, voilà. Et du coup, j'ai eu ce déclic, j'arrêtais pas d'en parler à Gwendal. Gwendal me dit non mais Lola, oui, enfin arrête les cours. Il dit je veux pas te dire ça parce que, mais franchement je pense que... Tu te trompes pas, enfin, t'es faite pour ça. Puis moi, j'étais, non, mais pas du tout. Enfin, c'est trop dur, faut gagner de l'argent. Comment on gagne de l'argent en étant musicien à Paris? Et j'ai dit, bah, en fait, je crois que je vais jouer dans la rue. C'est quoi, le seul moyen, c'est ça? Donc, moi, j'avais prévu, tu pourras en parler un jour à Gwendal si vous l'accueillez.
Pardon.
T'inquiète.
Ça.
Tu pourras en parler un jour à Gwendal si tu veux l'accueillir dans le podcast. Mais en gros, je lui avais dit, moi, c'est très près, j'irai au Trocadéro, je sais exactement où je vais. La mère de Gwendal m'accompagnerait pour récolter la thune. Enfin, tout était prêt dans mon esprit pour que je puisse abandonner les études tranquille, quoi. Et en même temps, pour m'occuper les journées. Parce que j'ai dit, si je me connais, je vais jamais me lever à 8h le matin pour essayer de bosser, quoi. Et du coup, pendant que j'étais en stage, j'étais genre... oui, je suis obligée, j'ai du tutorat à mon école et tout. Pas du tout. Je suis allée passer des castings pour des écoles de théâtre. Et j'ai été prise à l'école du One. J'avais écrit sur un bout de papier Café Richard dégueulasse dans un bar un sketch un peu pété sur une de mes chansons. Un sketch vraiment un peu pété, j'aurais dû le ramener, ça aurait été drôle. Ça aurait été trop marrant. Et du coup, j'ai passé les castings pour cette école. J'ai été reçue le jour même, je savais que j'étais reçue. Ils m'ont appelé en disant bah, nous, ça nous ferait trop plaisir que tu viennes à l'école et tout. Et là, il me restait 3 semaines de stage obligatoire et 1 mois de stage que je m'étais rajouté comme une truite. Mais vraiment, j'étais au bout. Je rentrais les soirs, je pleurais. Quand j'arrivais le matin à 9h05, le mec, il me défonçait. J'étais, mec, mon stage commence à 9h, je dois prendre la ligne 13. Les Parisiens savent que la ligne 13, c'est le parcours du combattant le matin. Et du coup, j'en pouvais plus, je craquais, quoi. Et j'ai appelé ma tutrice, voilà. Okay. Et je lui ai dit, écoutez, je crois vraiment que je vais devoir arrêter plus tôt. Elle me dit, ah non, Lola, c'est dommage. Je fais, non, mais là, je crois que je vais... Mental breakdown. Je peux pas avoir des collègues, en fait. Je peux pas avoir une machine à café.
Pas ces collègues-là, patron-là.
Pas ce patron-là. Je lui ai dit, en fait, je crois que je suis pas faite pour l'entreprise. Vraiment, elle me dit, non, Lola, c'est dommage. Vous avez des bons résultats. Je fais, non, je vous jure. Et en fait, là, ça a été le jour du déclic. Et j'ai dit j'ai appelé mes parents en sortant et j'ai pleuré. Ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais l'impression de faire un coming out.
Mais tu m'étonnes.
Et si, tu vois, un jour j'avais dû faire un coming out, je pense que dans ma tête, ça aurait été plus facile, presque, de dire j'aime les meufs parce que tu vois, je connais mes parents et ils auraient bien réagi, que là, je savais pas du tout comment ils pouvaient réagir. Je leur avais fait une perspective d'avenir sur 3 ans où j'allais avoir un bac plus 5. Oh là là, c'était, mais dans ma tête. Et puis moi, je rendais tout ça concret, quoi. Tu vois, de le dire, ça rendait le truc concret. J'étais non, je peux pas leur dire.
Parce que t'avais à nouveau peur de les décevoir, en fait.
Carrément.
Alors que finalement, c'est un idéal que toi, tu leur avais créé.
Mais carrément.
C'était pas du tout.
Ah, mais c'était moi par rapport à eux, mais de manière débile. Et du coup, je l'annonce à.
Désolé.
Et du coup, je l'annonce à mes parents. Et mes parents m'ont fait bah, enfin.
Bah, tu vois.
Et j'aurais dit quoi? Ils m'ont dit bah, nous, depuis le début, on est convaincus que tu vas faire ça de ta vie, mais on attendait que toi tu prennes la décision, parce qu'on t'a proposé quand t'as terminé ton bac. Mais ils ont dit nous, on ne voyait pas faire autre chose. Et j'ai fait mais putain, vous auriez pas pu me le dire avant, genre ça aurait été beaucoup plus simple.
Non, mais c'est génial qu'ils t'aient laissé l'occasion à toi de te rendre compte, parce que sinon t'aurais peut-être eu des regrets.
Mes petites pépites. Et le plus dur, ça a été de l'annoncer à mes copines de cours.
Ah bon?
Ouais. Ah ouais, vraiment. Parce que je me suis dit... en fait, je leur ai dit... Elle s'en rappelle encore. C'est trop marrant parce que du coup, je vais souvent boire des verres avec. Et elle me dit, non, mais dire que ça a tenu à une ou deux discussions qu'on a eues au Jojo, donc c'est mon bar préf. En fait, on se rejoignait après nos stages et toutes, c'était une cata. Mais toutes. Et un jour, j'arrive et là, je me mets à pleurer. Elles me font, non, mais qu'est-ce qui se passe, meuf? C'est si horrible que ça. Je fais, bah ouais, franchement, je suis trop pas bien dans mon stage et tout. Et je dis, bah en fait, j'ai pris une décision... Je suis prise dans une école de théâtre et je crois que je vais arrêter, mais franchement, ça me fait trop peur. Et mes copines ont dit, non mais enfin, oui, casse-toi, meuf, t'es... Franchement, la com, d'accord, ça va, t'es pas mal. T'es pas mal, mais t'es pas non... Enfin, on sent que t'as envie de te barrer, tu chantes de ouf, meuf, barre-toi, quoi, ouais, carrément. Et du coup, tout le monde, unanime, ils m'ont dit, mais t'as mis du temps. Et j'étais genre, bah ouais, mais quand t'assumes pas un truc en toi, bah t'assumes pas un truc en toi, quoi, tu vois, t'y arrives pas. Et le déclic s'est fait donc ce jour où j'ai été prise à l'école de théâtre et j'ai quand même, tu vois, ça a mis du temps. J'ai mis 3 semaines à le rendre concret dans mon esprit et à dire à l'école, oui, je viendrai l'année prochaine. Et la même année où j'ai commencé cette école, on m'a appelée l'été où j'ai arrêté mon stage et l'été où je savais qu'en septembre, j'avais ma rentrée à l'école du One. On m'a appelée, on me dit, salut, je m'appelle Laura, je suis chef de projet chez M6. On cherche à créer une chaîne YouTube avec des gens de la musique qui font de la musique ensemble. Est-ce que ça te dirait d'en faire partie? Enfin, au moins de passer le casting. Et j'ai dit YouTube, ça marchera jamais. Du coup, j'ai fait.
T'as le nez, hein, quand même.
J'ai du flair. Hein. La meuf, pas la moitié d'un con, quand même. Et ouais, et en fait, la même année, j'ai commencé mon école. Et en fait, j'ai l'impression que d'avoir pris cette décision-là, il y a plein d'opportunités qui sont arrivées. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ma carrière avec des guillemets.
Arrête de mettre des guillemets à ta carrière, ta carrière, elle est incroyable.
Ma carrière est vachement... c'est les prises de décision que j'ai dû avoir ont été prises en temps voulu et ont déclenché d'autres décisions. Enfin, ça a vraiment été une suite de chances et d'opportunités qui se sont mises sur la route.
En fait, il manquait que toi, finalement, pour que ton chemin s'éclaire.
Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai toujours été moins au courant de mes capacités que les autres.
J'ai l'impression que c'est encore le cas,
effectivement. Oui.
Mais comment, en fait, t'expliques aussi que t'as à ce point du mal à assumer, enfin, t'as mis à ce point du temps à assumer, en fait, ce que t'avais envie de faire, et en même temps, t'as jamais hésité à choper des opportunités. Qu'est-ce qui explique ça chez toi, en fait ?
Ça, c'est une bonne question, parce que, en fait, je crois que, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, chanter, c'était tellement un truc naturel et qui est venu sans que je me dise que ça puisse être exceptionnel et sans que je le travaille... Enfin, en fait, j'ai eu des cours de chant, mais comme un loisir, tu vois. J'ai eu des cours de guitare comme un loisir. Jamais j'aurais pensé que ça puisse être mon métier. Et je sais pas, croire en soi, c'est le travail de toute une vie, je crois, tu vois, pour n'importe qui. T'as des gens qui ont un excès de confiance et je trouve que ça fait pas avancer d'avoir trop confiance.
Bien sûr.
Mais pas avoir assez confiance, c'est aussi un frein, vraiment, dans ta vie. Moi, je me suis beaucoup freinée parce que je me sentais pas capable ou pas assez bien. Mes parents ont été, et mes sœurs, ont été une grosse force là-dedans, quand même, à me rendre... je sais pas, à me mettre en valeur quand moi j'arrivais pas à avoir ce déclic là. Et puis il y a aussi un truc, c'est que je suis alors ça peut être horrible ce que je vais dire là, enfin, en tout cas ça peut paraître hyper pédant, mais je me suis toujours dit que j'étais pas née pour rien faire, pas en mode je suis exceptionnelle, pas du tout ça, mais en tout cas que moi dans ma vie j'allais faire un truc que j'estime super, ouais. En tout cas bien, j'étais assez sûre que quoi que je fasse, je savais pas encore ce que ça allait être, ni ce que c'est encore maintenant, parce que j'ai 26 ans, mais je savais que j'étais née pas pour vivre un truc basique.
Ok.
J'avais le sentiment, ce sentiment-là. Et pas en mode, je vais vivre un truc plus exceptionnel que les autres, mais en tout cas, j'ai pas envie que ce soit basique.
Un truc donc qui te met le feu dans le ventre.
Quoi. Ouais, qui te fasse mal au bide à tel point que t'es content. Et j'ai toujours eu ce sentiment-là. Mais pas en mode, tu vois, ça aurait pu... ça se trouve, hein. Tu vois, j'aurais pu trouver ce contentement-là dans la communication, si j'avais trouvé un autre stage... Tu vois, je sais pas, si j'étais allée dans une autre boîte où ça se serait super bien passé. Ça se trouve, ce truc dans le beat, je l'aurais trouvé en répondant à des appels d'offres. Enfin, tu vois, je sais pas.
Ouais, peut-être.
Mais en tout cas, toutes les planètes se sont alignées, comme dirait Matt Pokora, les planètes tournent tout autour. Mais toutes les planètes étaient là pour me mettre sur cette voie-là. Et quand même, le chant m'apportait, et m'apporte encore, un genre de truc de... ça me remplit, quoi. Je sais pas comment te dire. Ça comble des trucs que je peux pas trouver dans les mots que je dis, tu vois.
Même quand t'es sur scène et juste que tu fais des blagues entre...
Ouais, je sais pas.
C'est le chant aussi.
Le chant, les blagues... En fait, tu vois, j'ai longtemps analysé pourquoi j'avais envie de faire de la scène. Et en fait, on dit beaucoup, et ça m'agace, parce que franchement, c'est une fausse image. On dit beaucoup que les humoristes, les comédiens, les chanteurs, c'est pour combler leur ego. Et pour qu'on nous aime. Alors que moi, j'ai pas ce sentiment-là. Je m'en fous qu'on m'aime bien. En fait, ça a été un problème avant.
Ouais.
Ça a été un problème quand j'avais 15 ans. Parce que les gens m'ont aimé et détesté en même temps. Et du coup, moi, j'étais perdue là-dedans. Je me suis perdue. J'ai été très mal. Et maintenant, ça va par rapport à ça. Les raisons pour lesquelles j'ai fait de la musique, je les ai beaucoup étudiées pendant longtemps. Et en fait, j'étais arrivée à ce moment où, quand j'ai fait Incroyable Talent, j'ai vu ce que c'était que de pas être aimé des gens, qu'on puisse avoir un avis vraiment négatif sur moi et tout. Et du coup, la musique, je l'ai jamais... Enfin, j'ai été très mal pendant longtemps, je me suis fait soigner. Enfin, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait à peu près à ce moment-là pour que ça aille bien. Et j'ai compris, au bout de cette quête-là, que, en fait, je faisais pas de la musique pour plaire aux autres. Parce que la musique, ça me contentait pour vraiment d'autres choses. La musique, ça m'a toujours contentée dans ce que je pouvais dire en chantant, mais pas dire dans la vie.
Ouais.
Donc j'ai écrit des chansons très tôt, à 14 ans, tu vois. J'arrivais à dire des choses dans les musiques que j'arrivais pas du tout à matérialiser,
à sortir
juste en parlant, tu vois, en ayant une conversation. Et en fait, je me suis dit, je suis forcément pas la seule qui arrive pas à parler. Donc peut-être que si je chante pour d'autres gens, peut-être ça peut aider. Et j'ai jamais fait de la musique que pour aider, parce que ce serait trop humaniste de ma part, et je ne suis pas trop humaniste, parce qu'il faut pas déconner. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu que ce soit un échange, et c'était aussi une manière de me dire, je suis pas solo. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'était sortir de la solitude, c'était être sur scène et chanter, pour moi.
D'accord.
Et du coup, quand je suis sur scène aujourd'hui, là, je me rends vraiment compte que je ne comble pas des vieilles blessures d'ego. Et en tout cas, j'ai pas ce sentiment-là, et ça me ferait de la peine pour moi. Mais tu vois, quand je bosse avec mon metteur en scène et quand je bosse avec mon co-auteur, tu vois, par exemple, j'ai aucun ego à dire que je co-écris mon spectacle. Je ne suis pas capable d'écrire des blagues à 100%. C'est
bien sûr,
un talent. Et tu vois, t'as des gens, par exemple, on se doute pas, mais t'as des gros, gros artistes qui co-écrivent, mais sur l'affiche, c'est marqué que c'est eux qui écrivent.
Mais non.
Mais ouais.
Et moi, tu me diras des noms en off.
Bien sûr, en off. Mais moi, j'ai aucun ego avec ça. J'ai beaucoup d'ego sur la musique, dans le sens où je suis très contente quand je fais des chansons. Mais quand je les partage, j'ai pas. En fait, je sais que je pourrais faire que ça. Et que ce serait pas possible de chanter autrement et de dire d'autres mots. Du coup, j'ai vachement de mal, par exemple, à coécrire des paroles. Autant coécrire des blagues, no sus, coécrire des paroles, c'est très compliqué pour moi parce que c'est tellement ma langue que ce serait trop dur de dire les mots de quelqu'un d'autre.
J'avais envie de revenir, en fait, sur donc le moment où t'as eu le déclic.
Ouais.
Le fait que tout le monde, tes potes, tes parents, bon, pas tes profs, mais que tout le monde ait vécu ça comme une évidence. Est-ce que toi, tu t'es dit, ah, merde, j'ai perdu du temps. C'est du gâchis, ce que je viens de faire, les 3 ans que je viens de passer.
Eh ben, en fait, de toute façon, j'ai toujours le sentiment d'aller trop lentement dans la vie. C'est terrible.
C'est une blague.
Non, mais en vrai, je me suis juste dit, alors attends, tchouki, tchouki, tchouki. Pour les autres, c'était évident, mais pas pour moi, c'est ça?
Ouais,
donc,
c'est ça.
Comment
et
je l'ai...
du coup, t'as eu tellement peur de leur annoncer, en voyant que, quand tu leur annonçais, en fait, ils étaient soulagés.
Ouais.
Parce qu'ils y pensaient pour toi depuis bien plus longtemps que toi. Est-ce que en réalisant ça, tu t'es pas dit j'ai perdu trop de temps à avoir si peur de...
Bah en fait, c'est qu'il s'est passé tellement de trucs en parallèle. J'étais signée dans une boîte d'édition où j'écrivais des chansons et avant j'écrivais en anglais et j'ai commencé à écrire en français quand je suis arrivée à Bordeaux et j'ai fait les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel. Donc ça a été aussi un gros tournant parce que c'est là où j'ai commencé à écrire en français. Et en fait, quand je suis revenue avec des chansons. Et mon éditrice m'a dit « Ouais, de toute façon, t'écris pas très bien. » Yes.
Très bien. Mm-hmm.
Bah, claque ta confiance quand tu viens d'écrire tes premiers textes en français, c'est horrible. Et en fait, tout ça, ça m'a ralenti. Parce que j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, ouais. Et puis, j'en parlais pas. J'étais juste triste.
Ouais.
Ça m'a juste attristée. Et en fait, je suis d'une nature, depuis que je suis toute petite, à garder les trucs qui me font de la peine. Mm-hmm. Et puis, dès qu'il y a un truc insignifiant qui se passe, j'explose. C'est une cocotte minute,
on appelle
ça.
Goutte d'eau,
c'est la goutte d'eau, exactement. Et en fait, depuis que je suis arrivée à Paris, maintenant, je sais le gérer, à peu près. Ce n'est pas encore réglé, c'est encore une grosse partie de moi qui doit faire un effort. Mais en fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et j'étais encore comme ça. Donc, j'avais 22 ans. J'étais encore à tout garder, tout garder, tout garder. Ce qui fait que quand tu gardes tout... puisque t'exposes rien, les gens t'écoutent pas les gens en fait, puisque tu leur demandes pas leur avis. Et en fait, c'est quand quand mon cheminement est terminé que je dis en fait je crois que je vais faire ça et les gens font alléluia frérot, bravo, bravo Sherlock. Nous on le sait depuis un an. Oui ok d'accord. Ben en fait et tu te rends compte que quand même sans les autres t'avances moins vite. Enfin, en tout cas moi dans mon sans l'avis des autres mais sans les conseils éclairés de certaines personnes, bah quand même c'est moins évident. Et ça, je vais en parler. Je vais parler d'une personne qu'on connaît toutes les deux. Quand je suis arrivée sur Cover Garden, il y a une jeune femme qui est arrivée en même temps que moi, qui s'appelait Laetitia Berteuil, qui est une réalisatrice de talent et qui gère la chaîne Rose Carpet aussi. Et en fait, j'ai rencontré Laetitia, qui a été une rencontre pro et perso incroyable, et surtout perso, parce qu'en fait, on avait beaucoup de choses qui se rejoignaient et on a commencé à être copines. Et en fait, en étant copine, elle m'a dit un jour. C'est marrant parce que tu parles pas du tout de quand ça va pas. Et j'ai fait, ah ouais, bah non, enfin non, puis ça va jamais pas. Elle me dit, bah peut-être que si, mais tu l'interdis un peu, quoi. Je fais, bah non, tu sais, moi tout va bien. Hein. Mito donc du coup, c'est grâce à Laetitia que j'ai commencé à parler, parce que ça a été la première personne à qui j'ai pu parler quand ça allait pas. Et du coup, c'est une de mes meilleures amies maintenant, et du coup, Laetitia, elle a été déclic de pas mal de trucs. Et elle, ça a été la première à me dire que j'avais vécu le harcèlement scolaire, parce que quand elle en a parlé sur Rose Carpet, j'ai dit attends, mais ça c'est pas normal. Du coup, je lui ai décrit ce que j'avais vécu, elle m'a dit non, c'est pas normal, vraiment là, pas normal du tout. Et en fait, en tout cas, Rose Carpet, c'est une chaîne hyper importante, je pense, pour les plus jeunes, les garçons et les filles, hein, parce que franchement, les garçons, allez-y pour essayer de, aussi de comprendre comment les meufs ça marche, certaines. Et les garçons, allez-y aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent répondre à des questions. C'est si des plus jeunes écoutent, parce que je trouve que c'est un.
Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec jeune. Toi.
Et avec Sophie, on en a fait partie longtemps, et je pense qu'on a à peu près le même avis sur Laetitia.
Exact.
Qui est une personne très importante, en tout cas chez Rose Carpet, mais aussi une personne très importante dans la vie en général, parce que moi, elle m'a aidée. Elle m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée, quoi. Tu sais, il y a des rencontres comme ça.
Toi, t'aurais des conseils pour savoir s'entourer dans la vie, parce que mine de rien, bah, tu le dis, toi, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup au quotidien et dans ta carrière aussi.
Ouais.
Mais en fait, c'est pas toujours simple, j'ai l'impression, parce que parfois, ouais. On se lance dans des amitiés un peu toxiques ou ce genre de trucs.
Ah ouais, moi, j'en ai eu. Hein. Ouais, carrément. J'ai eu des amitiés toxiques, je ne les citerai pas ici, bien sûr.
Ça restera entre nous.
Ça restera entre nous, je pense que... En fait, les amitiés toxiques, c'est les amitiés où quand ils pensent, ça te fait mal au bide.
Ouais.
Et vraiment, dès que vous avez mal au ventre et pas pour des bonnes raisons, partez. C'est vraiment la leçon que je retiens des années où je disais pas que ça n'allait pas. Et en fait, maintenant, je le dis un peu plus. Je suis pas complètement réglée à ce niveau-là. Je pense qu'on est beaucoup. Enfin, je suis pas la seule à avoir ce truc un peu de... Je pense que j'ai pas mal d'empathie avec les gens. Et dès que je sens qu'il y a des gens qui vont pas bien, j'ai très envie d'aller les aider. Et des fois, t'es pas sauveur, hein. T'es pas obligé d'aller sauver les gens.
Tu n'es pas un Saint-Bernard.
Je ne suis pas... Et pas c'est mon patronus,
oh,
le
non,
Saint-Bernard. Donc tu vois, je suis pas très éloignée de mon patronus. Et je dis pas que je prétends avoir des solutions pour tout le monde, hein. C'est vraiment pas ça. C'est juste que quand tu te sens comme ça, à un moment, et ben du coup, tu peux te perdre un petit peu et penser aux autres, à te dire que d'aider les gens à s'épanouir, ça peut t'aider toi, alors que non, hein, vraiment. Hein. La seule personne qui peut t'épanouir... c'est toi, c'est ton épanouissement interne. Et je dirais, je sais pas si j'ai des conseils pour bien s'entourer, parce que on fait tous des erreurs et on peut tomber sur des couples. Quand t'es en couple avec un mec par exemple ou une nana et que tu sens qu'il ou elle est toxique, des fois tu mets longtemps à t'en rendre compte parce qu'il te conforte. Il y a un truc en toi qui conforte. Et en fait, moi ce que je vous dis juste, c'est plus vous êtes en accord avec vous-même, plus les gens comme ça vont s'écarter parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous ne leur laisserez pas la place qu'il faut. Et je crois que pour bien s'entourer, c'est avant tout peser la chance d'avoir certaines personnes dans son entourage, et des fois leur accorder plus d'importance, parce que c'est pas ceux qui ont la plus grosse gueule qui sont les plus intéressants. Je sais pas, toi t'aurais des conseils ?
Moi, en fait, je pense
que... c'est intéressant.
Moi, je suis très instinctive comme personne.
Pareil.
Et généralement, j'ai le feeling à la première seconde, genre au premier échange de regard.
Pareil.
Et parfois, je me force à aller contre ce feeling parce que je me dis, tu sais, j'ai le mauvais feeling et je me dis, mais
tu peux pas juger d'un coup.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est ça qui m'a fait me rapprocher des personnes toxiques.
Ben voilà.
Et on est pareil. Là-dessus, je pense qu'on est pareil.
On s'est pas fait assez confiance à ce moment-là.
C'est ça. On s'est dit, non, mais c'est pas possible que. Moi, en fait, des fois, je me dis, tu ne peux pas avoir cette opinion de toi en te disant que ton instinct est forcément bon. Donc, putain, laisse la chance aux chansons. et au final, tu te rends compte que bah t'as raison. C'est ça, c'est... En fait, ton instinct, ça restera... On est des animaux, hein, à la base des bases. Ouais. Hein. Donc, ton instinct, c'est vraiment ce qui te dirige dans la vie. Et si tu sens que ça pue, n'y va pas.
Exactement. Et ouais, et c'est ça. Et aussi, en fait, si quand tu reçois un message de la personne, t'as envie de sourire et que t'as pas mal au vide, c'est plutôt bon signe.
Tu vois, le mal de bite, c'est.
Le
quand
mal
même,
de bite, ouais. Le mal c'est de peut-être parce qu'on a des problèmes.
Gastriques, ça c'est sûr. De toute façon, je pense qu'on est très connectés en termes de paix, Sophie.
C'est vrai!
Et tu sais qu'on a tourné des vidéos dans des kigurumi chacune et on le sait très bien. Qu'on a toutes les deux pété dans nos combis.
Évidemment. Voilà. On va t'assurer.
Exactement.
Je me demandais si la personne que t'étais avant le déclic que t'as eu d'arrêter tes études et d'en faire d'autres, d'aller dans l'école du One,
c'est l'école du One, ouais.
Je vais la refaire du coup.
T'inquiète.
Si les personnes que t'étais avant ton déclic d'arrêter tes études pour aller à l'école du One te voyaient maintenant, qu'est-ce qu'elles te diraient ?
Eh ben, t'as pas chômé, frérot. Non, moi, c'est vrai que je pensais pas que c'était autant de travail. de faire ce que je fais maintenant, donc des spectacles et tout. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait quand même assez naturellement. Je sais pas ce qu'elle se dirait. Elle se dirait juste « Ah ouais, genre c'est possible. » Parce que vraiment, là, ce qui se passe dans ma vie, j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois. Oui, j'y crois, genre j'ai envie de faire ça, je suis trop contente, mais j'arrive pas à me dire que ça se passe. Mmh. Donc en fait, je le prends d'une manière vraiment très extérieure. Et c'est drôle parce que j'ai un copain de l'école qui vient d'être papa. Un copain de l'école du One. Et juste avant de venir avec vous, j'étais avec lui. Son fils et puis d'autres copains de l'école, dont une de mes profs. Et en sortant, je leur ai donné des nouvelles donc de ce qui se passait et tout. Ouais. Et en sortant, j'ai une de mes profs de l'école du One qui s'appelle Coralie qui me dit « Je suis quand même super contente, hein, tout ce qui se passe en ce moment pour toi, c'est... » Elle dit « C'est pas une chance hein, parce que tu travailles, c'est super mérité, mais je suis trop contente pour toi. » quoi. Et je me suis dit « Ça, c'est juste un compliment gentil. »
Bien sûr.
Qui coûte rien. Et la meuf a quand même réussi à me faire plaisir en deux secondes. Et je sais, quand je suis avec Coralie, j'ai l'impression d'être encore l'élève avec la prof, alors que c'est mon amie, hein, mais ça, quand elle me parle de ma carrière, quoi. Ma carrière, non, je rigole,
arrête.
Je sais. Non, quand elle me parle de ma carrière, j'imagine toujours la prof qui me parle.
Ouais.
Et en fait, c'est elle mon référentiel. C'est des gens comme ça, les référentiels. Donc je me dis juste, je sais pas, elle se dirait juste. Que j'ai beaucoup travaillé et que je peux le dire, hein, je suis très fière de ce que je fais, vraiment. Je suis fière de moi, oui, tu vois, sur plein de trucs et puis d'autres trucs pas trop, mais je suis quand même fière d'avoir fait fermer la bouche de tous les cons qui ont pu me dire que j'y arriverais pas et que ce que j'ai fait là, pour moi, c'est pas une fin en soi, que je suis contente d'en être là maintenant et que ce sera super drôle à raconter à mes gosses si demain tout s'arrête, c'est pas grave. Ça me fera de la peine 5 secondes en me disant quand même t'as beaucoup taffé pour au final plus grand chose, mais je sais qu'avec les valeurs que mes parents m'ont transmises, j'arriverai toujours à transformer en quelque chose qui me fera du bien et ouais, genre, je peux le dire sans aucune peine, je suis très fière de moi, ouais. Ça me pose aucun problème, j'ai l'impression d'avoir floué, d'avoir un peu rabattu le caquet aux gens qui m'ont trouvé trop grosse, qui m'ont trouvé trop moche, qui m'ont trouvé pas assez talentueuse. En tout cas, là en ce moment, moi je gagne ma vie en faisant ce que j'aime et vous, non. Donc, belle journée.
Non, mais t'as bien raison parce qu'en fait, le truc c'est que les gens ont tendance à avoir peur de dire qu'ils sont fiers d'eux quand
ouais.
ils le sont. Alors qu'en fait, c'est pas de la vanité, c'est juste
non.
que t'as le droit. Enfin,
bah non, parce que tu vois, je me dis.
Tu peux en plus, quoi.
Bah je me dis, quand je suis arrivée à Paris, je me suis toujours dit, oh, ce serait ouf d'avoir un spectacle à Paris. Bah j'ai un spectacle 4 fois par semaine à Paris. Ouais. Et juste ça, de me le dire, c'est fou. Là je sors mon album bientôt et tu vois je peux dire que vraiment c'était un de mes rêves de petite fille et que je vais le faire et au pire demain ça s'arrête, j'aurais fait ça et je suis contente, ça, je suis fière de moi, j'ai fait de l'autoproduction pendant un an de mon spectacle, j'ai perdu de l'argent, je m'en fous, l'argent c'est rien, l'argent t'en as pas, ça fait chier parce que franchement tu peux pas vivre à Paris et en France en général sans argent tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas fonctionner et moi j'ai de la chance de pouvoir avoir de l'argent pour l'investir dans mes projets. J'ai de la chance de trouver des gens qui ont envie de s'engager avec moi. J'ai eu de la chance de tomber sur mon metteur en scène qui a cru au projet de faire de la musique et de l'humour. Et c'est pas donné quand tu sais que mes chansons, elles sont pas marrantes. Enfin, tu vois, c'est une suite de trucs qui me font me dire « Ok, franchement, ouais, je suis fière là. Ouais, à ce moment précis, ouais. » Après, il y a plein de trucs qui me rendent pas fière de moi, mais ça, c'est la vie, tu vois, en général.
Il y a un truc dont t'as un peu honte maintenant
Les trucs dont j'ai un peu honte, ça peut être certaines vidéos que j'ai pu faire.
Ah bon ?
Ouais.
J'ai toujours trouvé tes vidéos très bien.
Oui, mais toi, parce que toi, t'es mignonne. Mais, mais non, non, c'est certaines vidéos, tu vois, de... En fait, c'est plutôt moi, l'image que j'avais dans ces vidéos-là, et peut-être ce que je... Ce que j'ai... Tu vois, par exemple, mon image physique. Il y a longtemps où moi, je m'aimais pas. Là, je m'aime pas forcément bien, mais je suis pas encore over à l'aise avec mon image. Bizarrement, mais... Je suis pas, tu vois, c'est pas un truc. Genre, je me dis jamais je suis belle ou machin. Des fois, je me trouve jolie, tu vois. Mais je suis pas encore dans ce délire-là à me trouver foncièrement belle. Et je sais, quand on pense à moi, tu penses pas à ma beauté au premier abord, tu vois. Ça me pose aucun problème. Tu vois, il faut des gens plus beaux que nous, hein, y a pas de souci. Et en fait, le problème, c'est l'image physique de moi dans certaines vidéos où j'ai pas honte, mais je suis pas très fière de m'être montrée sous ce jour-là. Et à la fois, c'est ce qui faisait aussi, c'est ce qui fait la simplicité de ma chaîne et où ça me pose en fait en soi aucun problème. Mais c'est plus que quand il s'agit de séduction avec d'autres mecs et qui peuvent tomber sur ces vidéos-là, ouais, okay. Là j'ai un peu honte.
Je comprends.
Voilà, t'as compris. T'as eu le même problème, voilà. Donc c'est, j'ai pas du tout honte des vidéos, mais j'ai honte de certaines gueules que je peux avoir dans les vidéos.
Et en même temps, c'est ça qui fait que, enfin, c'est rafraîchissant en fait de voir autre chose que
des meufs de super,
qui sont géniales et que j'aime beaucoup et dont j'admire le parcours, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué.
Ouais, en fait, moi ce qui m'a, tu vois, ce que j'ai aimé avec YouTube, c'est que je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais. Et je pense que tu l'as pris exactement de la même manière. Et en fait, le fait de pouvoir te montrer extrêmement laide dans une vidéo, c'est une liberté. Alors, ouais, là, incroyable.
T'en rajoutes un peu comme...
Non, mais genre moi par exemple, j'ai fait des vidéos le matin avec plein de boutons, je m'en fous. Ouais. Tu vois, ça me pose là, ça me pose pas de problème. C'est que des fois, je sais que j'ai fait des têtes parce que j'avais tellement peur qu'on me dise que je suis moche que j'ai été moche. Et en fait, c'est ça qui me déçoit quand je les revois. C'est que je me dis d'accord, donc en fait, t'as fait ça pour essayer qu'on te dise pas que t'étais moche naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis un peu auto-flagellée et c'est con. Et des fois, quand je me vois, je me dis t'as été bête, mais c'est pas grave. Je m'aime bien quand même.
Alors là, il y a ton album qui sort bientôt. T'es sur scène 4 soirs par semaine.
4 soirs par semaine, exactement.
T'as rencontré Céline Dion.
Oui.
Ta chaîne YouTube, ça va bien. Oui. Enfin, tu vas. T'es à la télé dans.
J'étais à la télé, ouais, dans Olivia, exactement.
Bientôt au cinéma.
Peut-être, who knows. Peut-être, mais j'ai été, ouais, une fois.
C'est quoi le prochain gros truc que t'as envie de faire?
Alors moi, je suis pas du tout dans la team bouquin. Je suis pas trop dans la team bouquin parce que. Ça a jamais été trop mon rêve de faire d'accord. Un livre, plus une BD si je devais faire quelque chose, tu vois. Mais non, le prochain gros projet, c'est des grosses dates à Paris. Donc là, je suis en fait, j'étais en rodage pendant 2 ans sur mon spectacle. T'as vu la toute première, Sophie.
C'était exactement la toute première, ouais.
Exactement la toute première. Et le spectacle a beaucoup changé, donc ça me ferait trop plaisir que tu le revoies. Et là, en fait, j'ai trouvé exactement les chansons que j'avais envie de mettre dedans, exactement ce que j'avais envie de dire. Et du coup, on est en retravail du spectacle. Donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça me re-challenge. Alors que là, j'avais trouvé mes marques sur, on va dire, entre guillemets, l'ancien. Et là, en fait, mes challenges du moment, c'est de me sentir chez moi sur scène à 100% et de gérer encore mieux l'impro que ce que je sais faire là. Donc, t'es sur la scène, on appelle ça du spectacle vivant. Mm-hmm. Donc, spectacle vivant, c'est tu vis avec le moment. Donc, c'est essayer d'être encore plus, de vivre encore plus les moments. Sur scène. Et non, bah, le prochain gros projet, j'allais dire, c'est vraiment mon spectacle et puis la saison prochaine. Ça se trouve, vous me verrez dans Danse avec les stars, on va bien se marrer. Mais,
allez
ça serait super drôle. Mais en vrai, non, je pense pas. Là, il n'y a pas de gros projet. Les seuls gros projets, c'est mon spectacle et des grosses dates à Paris. Là. Mais voilà, c'est ça. Et puis bah, des podcasts, j'espère encore avec vous parce que j'ai passé un très bon moment.
Oh, bah, et nous donc bah, merci beaucoup, Lola. C'était vraiment top.
Merci Sophie de m'avoir accueillie avec grand plaisir.
On peut te retrouver où alors?
Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, @LolaDubini parce que vraiment, c'est mon nom. du coup, n'hésitez pas. Et sinon, sur scène au Sentier des Halles pour l'instant. Et la saison prochaine, dans une nouvelle salle, normalement. Je n'ai pas encore de certitude sur le nom de la salle. Je vais vous le dire en off. Mais en tout cas, restez sur les réseaux parce que je vais le dire. Donc voilà. Et puis, merci beaucoup. Je souhaite une longue vie à ce podcast. Quel déclic. Parce que je me sens un peu comme la marraine.
Mais tu es la marraine.
Donc, je suis ravie. Et c'est super. Que des meufs se lancent à faire des trucs bien, pour parler de choses bien, pour ouvrir la porte à d'autres gens et à plein d'histoires différentes qui peuvent toucher plein de gens. Donc bravo les meufs, c'est trop cool.
Merci Lola.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté le déclic de Lola Dubini. Pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Twitter et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.